Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Éric Botorel, député des Côtes d'Armor et auteur d'un rapport pour une politique publique de la donnée. Ce sera notre sujet principal du jour. Avec également au programme Install Parties, comment réagir au pacte avec le diable, et Des goûts et des couleurs, un hommage au travail des graphistes. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April. Le site web de l'April est april.org. Vous y trouverez une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 19 janvier 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, Patrick. Salut Patrick.
Bonjour à tous et bonne émission.
Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site web de la radio causecommune.fm et cliquez sur chat. Retrouvez-nous ensuite sur le salon dédié à l'émission. Vous pouvez aussi participer à nos échanges en appelant le 09 72 51 55 46. Le numéro est bien sûr sur le site de la radio. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors nous allons commencer par notre premier sujet. La chronique Partagé et bon de Véronique Bonnet portant sur le texte de Richard Stallman, Install Parties, comment réagir au pacte avec le diable. Une chronique enregistrée le 13 janvier 2021 par mon collègue Frédéric Couchet. Je vous propose donc d'écouter cette chronique et on se retrouve juste après en direct sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles.
Une lecture d'information et de mise en perspective de la philosophie GNU. C'est la chronique Partagé et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April. Bonjour Véronique.
Bonjour Fred.
Alors quel sujet vas-tu traiter aujourd'hui ?
Commenter un texte de Richard Stallman qui s'appelle Install Parties, comment réagir au pacte avec le diable.
D'accord, je vais juste préciser que les Install Parties, ce sont des fêtes d'installation pendant lesquelles sont des événements, hein, pendant lesquels des gens viennent avec leur ordinateur ou leur téléphone portable pour se faire aider à se faire installer un système d'exploitation libre, et ça vient de l'anglais Install Parties. Nous t'écoutons.
Très bien. Alors, c'est un texte qui a été publié donc par Richard pour le Libre Planète des 23-24 mars 2019. La traduction est d'Axel Barquero et il y a eu une révision par Trad GNU de l'April, qui est un groupe de travail à nous. Alors, si je regarde le titre, Install Parties, comment réagir au pacte avec le diable, c'est vrai que ce titre peut paraître surprenant. Richard Stallman utilise une image forte. Vendre son âme au diable, c'est risquer de ne pas pouvoir en réchapper, de ne pas pouvoir récupérer son autonomie. Diabalo, ça veut dire en grec calomnier. Diabolos, c'est celui qui raconte des histoires, qui fait passer des illusions pour la réalité. Et donc ici, le pacte avec le diable désigne l'utilisation de l'informatique non libre qui donne l'illusion que l'utilisateur gouverne son ordinateur, alors que bien sûr c'est l'ordinateur qui gouverne l'utilisateur. Et là, Richard Stallman examine une difficulté qui peut être rencontrée dans les Install Parties lorsque des militants libristes veulent implémenter GNU Linux sur des ordinateurs qui jusque-là tournaient avec des programmes non libres. Alors, on se demande bien où est le problème. Et il se trouve que, en effet, il est parfois compliqué de réagir à ce pacte avec le diable, c'est-à-dire d'installer des outils de l'informatique libre à la place de ceux de l'informatique non libre. On ne s'attendrait pas du tout à ce que deux objectifs libristes dans cette situation puissent entrer en conflit et même deviennent inconciliables. Richard Stallman énonce clairement ces deux objectifs. Premier objectif, promouvoir les idées du logiciel libre. Deuxième objectif, promouvoir l'utilisation de programmes libres. Mais il se trouve que lorsque les utilisateurs se rendent à ces événements, ils viennent avec leur matériel, c'est-à-dire leurs ordinateurs. Or, rien ne dit qu'il sera possible de les faire tourner avec une distribution GNU Linux complètement libre. parce qu'il se trouve que certains périphériques et processus peuvent ne fonctionner qu'avec des pilotes et des logiciels non libres, ce qui bien sûr est fait exprès. D'où une conséquence qui est très préjudiciable. Il se trouve que les deux objectifs dans ce cas de figure, au lieu de se compléter harmonieusement, c'est-à-dire rendre possible la promotion des idées du logiciel libre et des usages du logiciel libre, entrent en conflit. En effet, de deux choses l'une, si pour défendre les idéaux du logiciel libre, on n'installe que des outils 100% libres, il se peut qu'on ne puisse pas faire tourner l'ordinateur, ou en tout cas ne pas le faire tourner complètement. En effet, il se trouve qu'il peut y avoir dans ce cas-là, puisqu'il y a des défenses dans l'ordinateur qui initialement a tourné sur du non libre, il se trouve qu'il peut y avoir même aucun usage possible ou seulement un usage partiel. Et dans ce cas-là, les utilisateurs repartiront déçus. Deuxième cas de figure, donc pour que les utilisateurs ne repartent pas déçus, pour éviter de faire qu'ils se détournent du logiciel libre, ceux qui installent peuvent vouloir à tout prix assurer 100% des fonctionnalités. Et pour y arriver, ils peuvent avoir la tentation, bon, j'utilise exprès cette expression, tentation d'utiliser des outils non libres. Et alors dans ce cas-là, évidemment, on ne réagit pas au pacte avec le diable, on ne sort pas de cette aliénation de nos libertés, on ne fait que s'y installer plus profondément. Pire encore, comme cet arbitrage qui ne peut pas être satisfaisant, parce qu'effectivement, si des systèmes verrouillent l'ordinateur, il sera difficile d'avoir 100% de fonctionnalités avec 100% de logiciels libres. Donc pire encore, cet arbitrage est fait par les libristes, ceux qui aident l'utilisateur, et pas par l'utilisateur lui-même. Et dans ce cas-là, cette compromission est assumée par les installateurs et non pas par les utilisateurs. Les utilisateurs restent en dehors de ce dilemme éthique, de cette hésitation entre deux objectifs qui se contredisent. Quelle proposition de la part de Richard Stallman ? Déjà, il serait préférable de ne jamais dissimuler la difficulté et même de l'exposer pour que l'utilisateur prenne conscience de ses entraves à sa liberté. Si on n'expose pas cette difficulté, on ajoute de l'illusion à l'illusion au lieu de la dissiper. D'où deux préconisations. La première, installer uniquement du logiciel libre, 100% libre. Deuxième préconisation, rendre visible le diable. C'est-à-dire pourquoi pas, sur les installs, mettre une pancarte, demander à quelqu'un qui installe de mettre une panoplie du diable, et celui-là proposerait d'installer des logiciels non libres pour faire fonctionner l'ordinateur. Ce qui, bien évidemment, serait présenté comme une contradiction. Bon, bien sûr, on n'a pas à exagérer, Vendre son âme au diable n'est pas à prendre à la lettre, mais simplement au sens de rogner sur ses libertés. Au lieu de camoufler une contradiction, il est essentiel de la mettre à jour, ceci relève de la transparence, de l'éthique du libre. Parfois, on dit que le diable est dans les détails, et là il me semble, Fred, que le diable n'est pas du tout un détail.
Non, c'est loin d'être un détail, et en tout cas c'est une très belle explication de ce qu'il est important de faire lors des fêtes d'installation. Et on reconnaît bien là quand même toujours Richard Stallman, pour qui le libre choix de la personne utilisatrice est important, mais qu'elle doit avoir toutes les informations, toute connaissance de cause. Donc c'est un très beau texte, et j'espère que bientôt il y aura à nouveau des fêtes d'installation, parce que malheureusement la période actuelle empêche ces événements, et les personnes qui seraient intéressées par ce genre d'événements, ils peuvent se renseigner sur le site de l'Agenda du Libre, agendadulibre.org, sur lequel elles peuvent retrouver les organisations libristes en France et ailleurs, et les prochains événements qui seront organisés. Certains sont peut-être d'ailleurs organisés actuellement malgré les conditions sanitaires, peut-être en plus petit comité. En tout cas, voilà, c'était effectivement un nouveau très beau texte de Richard Stallman. Je vais rappeler le site du projet de GNU, c'est gnu.org, Et comme tu l'as dit, le groupe de travail TradGNU de l'April traduit la plupart des textes du site de gnu.org en français, donc vous pouvez rejoindre ce groupe si vous avez des compétences de traduction de l'anglais vers le français. Vous allez sur april.org et vous aurez les informations utiles. Et également, tu as cité l'événement le Libre Planète. Peut-être préciser que le Libre Planète, c'est l'événement annuel de la Fondation pour le logiciel libre. Que la prochaine édition aura lieu les 20 et 21 mars 2021, entièrement à distance. Donc ça permet en fait à toute personne de pouvoir suivre ces conférences. Et le site, c'est libreplanète.org. Donc je répète, 20 et 21 mars 2021. Est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose, Véronique ?
Je trouve que vraiment ton accentuation de ce souci de transparence du libre est totalement essentielle.
C'est-à-dire que ça a toujours été, je pense que beaucoup de personnes pensent que Richard Stallman est quelque part un, on a souvent employé le terme intégriste ou autre, mais en fait quand on le connaît bien, quand on lit ses textes, on se rend compte, voilà, que c'est pas du tout ça, qu'il présente les problématiques, et notamment en mettant en avant et au central la liberté des personnes utilisatrices, et après les personnes sont libres aussi de faire leur propre choix, mais de façon éclairée, c'est ce qu'on a toujours fait, et puis des fois il y a des compromis à faire. Je crois que tu as déjà d'ailleurs expliqué un texte de Richard Stallman sur cette notion de compromis, si je me souviens bien.
Oui.
Ben en tout cas, Véronique, je te remercie. Donc, c'était la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet. Je te souhaite une bonne fin de journée.
Belle fin de journée à toi, Fred.
Nous venons d'écouter la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, présidente de l'April, portant sur le texte Richard Stallman, Install Parties, comment réagir au pacte avec le diable. Une chronique enregistrée le 13 janvier 2021 par mon collègue Frédéric Couchet, et vous retrouverez la référence vers ce texte sur le site april.org. Nous allons maintenant faire une pause musicale. Aujourd'hui, notre programmateur musical Eric Frodin du site auboutdufil.com nous fait découvrir l'artiste Idyllic. Un artiste américain originaire du Wisconsin, le premier morceau qu'il nous propose, Light, est une musique instrumentale relaxante, aussi subtile qu'intense, aussi mélancolique qu'apaisante, aussi complexe qu'onirique. Du chill step, nous précise Eric sur auboutdufil.com. Vous retrouverez d'ailleurs le détail de son texte sur ce morceau sur son site. Nous allons donc à présent découvrir Light de Idyllic. On se retrouve juste après. Une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause commune
93.1. Thank you.
d'écouter Light par Idyllic, disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions CC BY SA, qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation, donc y compris commerciale, à condition bien sûr de créditer l'artiste. Vous retrouverez les références sur causecommune.fm et sur april.org. Vous trouverez également une présentation de l'artiste, comme je vous le disais, sur le site auboutdufil.com. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April. Passons maintenant à notre sujet principal. Nous allons poursuivre par notre sujet principal sur le rapport du député Éric Botorel pour une politique publique de la donnée. N'hésitez pas à participer à notre conversation, soit en nous appelant 09 50 39 67 59. C'est peut-être un numéro ancien. Donc, écoutez, vous trouverez de toute façon le numéro sur le site. En tout cas, vous pouvez aussi nous rejoindre sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Donc, nous avons pour le plaisir, pour discuter de ce rapport, de recevoir par téléphone le député lui-même. Bonjour Éric Botorel, vous êtes avec nous ?
Oui, je suis avec vous, bonjour.
Bonjour, merci de vous joindre à nous. Donc, alors vous êtes député des Côtes-d'Armor, membre du groupe majoritaire La République En Marche, et vous faites partie de cette poignée de députés qu'on peut considérer comme des spécialistes du numérique. Est-ce que ça vous convient comme étiquette ?
À partir du moment où elle m'est attribuée par d'autres, je la prends, et comme elle n'est pas insultante, je la prends deux fois, oui.
Bah, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire, je pense que ça pour situer un petit peu notre échange, est-ce que vous pourriez nous dire peut-être d'où vous vient cette expérience sur la thématique des technologies numériques ?
Je viens probablement de mon parcours professionnel. D'abord, moi, j'ai fait un BTS de système d'information et de gestion à Paris, en travaillant du COBOL, bien sûr, parce que je suis d'une génération qui est née en 66. Donc voilà, ça permet de situer le point de départ.
Et le puis COBOL, ensuite, qui est un langage de programmation pour les personnes qui l'ignoreraient.
Ouais, et mon premier sujet, en fait, de mémoire, c'est un sujet de gestion de carte de vin que j'avais fait avec un binôme. Qui s'appelait FIVA, voilà, fichier 20, c'est pas très original. Mais j'ai commencé par ça, et puis ensuite j'ai intégré une entreprise française, et puis ensuite une entreprise américaine. Sur un espace de 25 à 30 ans, j'ai plus des chiffres précis en tête, dans les fonctions commerciales. Entreprise qui était plutôt au tout début de la micro, qui venait révolutionner les architectures mini, et puis des offres bureautiques. Donc la fonction de ces entreprises était de commercialiser ces offres auprès des grands groupes. Moi j'ai commencé à la base comme ingénieur commercial, et puis après directeur d'agence, et puis après directeur des régions. Et puis ensuite je suis parti rejoindre une entreprise américaine. Alors à l'époque on faisait déjà un peu plus que du PC, hein, on faisait du client serveur. On commençait d'ailleurs avec du downsizing d'applications qui étaient sur mini vers des PC avec des systèmes de gestion type ERP, SAP qu'on commercialisait sur des machines processeurs Intel. Et puis voilà, puis évidemment on a fait de l'infrastructure, on a vécu les heures du web, d'Alta Vista. Et en parallèle de ça, ça c'était l'activité professionnelle, mais en parallèle de ça, j'étais aussi administrateur d'un tiers-lieu, ça s'appelle la Matrice Saint-Brieuc, qui est porté par l'association Crézet d'Affaires, avec des fous furieux qui faisaient des start-up weekends, des hackathons. Et puis, j'allais dire, de la diffusion de la culture numérique, mais au sens des valeurs qu'on va probablement aborder dans le cadre de l'information de l'émission pardon qu'on va avoir maintenant. Donc voilà, ça c'est, on peut difficilement s'arracher de son passé. Moi je n'avais pas rêvé d'être parlementaire, je n'avais pas ça à mon agenda. Les circonstances de la vie ont fait que la personne dont j'étais le suppléant, Corinne Arel, pour ne parler que d'elle, est décédée le soir du 5 mai 2017 lors d'une réunion publique. J'étais son suppléant depuis deux mandats, je m'apprêtais à aller pour son troisième mandat, et les équipes d'Emmanuel Macron m'ont demandé de prendre la suite. J'ai rappelé la famille, les enfants, parce que c'est pas un pompon qu'on décroche d'un manège. Et j'ai pris la décision de mettre entre parenthèses ma vie professionnelle pour consacrer à ce mandat. Et voilà, j'essaie de résumer au mieux d'où je parle. Peut-être bien conforter l'idée que je fais partie de cette poignée de députés, un peu plus nombreuses depuis 2017 qu'elles ne l'étaient avant, qui se saisissent de ces enjeux numériques dans les grandes largeurs, en sortant d'allier tous les besoins du moment entre la blockchain, l'IA, j'en passe les meilleurs. Mais je viens plutôt, vous l'aurez compris, du monde de l'infra, même si je suis un passionné en fait des usages. Voilà, j'ai toujours eu une difficulté de n'imaginer que. Enfin, je suis pas un naïf BA devant un serveur LAN ou un routeur, mais je suis curieux de voir qu'avec un modem sporteur US Robotics, on peut se connecter au monde. et ce qu'on peut en faire surtout. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc ce qui m'intéresse, c'est la part de sérendipité qui existe dans le numérique.
Bon, je pense que vous avez bien démontré voilà, votre intérêt pour cette matière, et puis je pense que le rapport, effectivement, on va en discuter, montre peut-être quelle conception et quelle maîtrise vous avez des enjeux qui nous intéressent. Bon, moi j'avais une question avant qu'on rentre justement dans les détails de cette mission d'information et de ce rapport. Mais justement, de votre point de vue de législateur, pour vous, en quoi les enjeux des technologies numériques sont justement des enjeux politiques, non pas simplement des enjeux techniques? Pourquoi, ou quand, autrement dit, comment les techniques influent sur le politique, et ainsi de suite?
Bah, le numérique, il a cette tendance à venir s'immiscer dans les interstices du droit qui n'est pas encore écrit pour essayer de faire surgir, pas pour bypasser le droit, pas pour faire un malin plaisir finalement d'être en dehors du droit. Mais comme il n'est pas toujours très à l'aise dans des cadres très rigides et qu'on est sur quelque chose d'assez dynamique, aussi sans employer des termes une fois employés de type agile, plastique... mais ce qui caractérise le numérique, c'est une matière vivante. Je disais tout à l'heure, si je regarde ce que je faisais il y a 30 ans, ce qu'on fait aujourd'hui, alors, en termes d'usage, on est à peu près assez proche en définitive. Mais déjà, la puissance de calcul a été démultipliée, la richesse ou la valeur ajoutée qu'il peut y avoir dans les applications ou les usages qui sont rendus au service des citoyens, et sans aucune commune mesure avec ce qu'on faisait, notamment si on regarde la manière dont le numérique s'est investi sur le sujet des mobilités, par exemple. En tout cas, c'est saisi l'opportunité de mobilité pour déployer de nouvelles offres de services. Le numérique, il n'attend pas que le droit soit prêt. Le droit, il faut un an, deux ans, parfois beaucoup plus de temps pour créer un texte de loi qui va écrire dans le marbre un certain nombre de grands principes, pas toujours très précis, et c'est logique que le droit soit pas toujours précis, parce qu'il faut aussi laisser des marges de manœuvre le moment venu. Je suis bien conscient. C'est poumonne parfois à essayer à coup d'amendement d'aller dans les détails des choses, mais vous observerez comme moi probablement qu'il y a des textes de droit qui sont des textes de droit fondateurs de notre République, qui n'ont pas eu besoin de tant que ça d'aménagement ces dernières années, qui résistent encore autant et qui nous font traverser des périls. Donc je ne suis pas un obsédé de la résolution des problèmes par la loi. Je l'ai dit très tôt d'ailleurs en prenant le mandat. Moi, je crois beaucoup aussi à la soft law, je crois beaucoup au côté jurisprudentiel des choses, à la manière dont on peut confronter les principes de réalité et les expériences. Moi, je ne résume pas tout au droit. Ceci dit, après, il y a des grands principes à réinventer. C'est vrai qu'en 1905, on s'intéressait à la laïcité et moins à la protection des données personnelles. Et donc, c'est logique que des instances délibératives et représentatives de la population, que sont des instances de type Assemblée nationale, enfin Parlement au sens large, puissent, le moment venu, protéger des aspects de liberté en posant de nouveaux jalons à des acteurs qui viendraient proposer telle ou telle chose. Bon, les effets ne sont pas forcément néfastes à l'origine, mais vous savez, il y a toujours possiblement des externalités négatives à chaque innovation. Donc le droit, il a pour vertu de... peut-être de remettre sur des rails, ou en tout cas de remettre dans des espaces dont on fixe les limites de ce qui est permis, de ce qu'on a jusqu'à maintenant toléré et qui nous fait vivre ensemble. Eh bien, créer ces espaces va permettre à ces innovations finalement de vivre et de ne pas venir empiéter sur d'autres sujets qui peuvent être connexes, qui viendraient mettre en difficulté des principes auxquels par ailleurs nous sommes tous attachés.
Merci pour ce tour d'horizon sur cette question. Et là où je vous rejoins, c'est effectivement que ce qu'on pourrait appeler du bon droit tient dans le temps, se pense dans le temps long, et puisse là proposer des principes structurants. D'ailleurs, on reviendra sans doute pendant notre échange. C'est pour ça qu'à l'APRIL, nous défendons une priorité au logiciel libre. Non pas que ça va régler systématiquement et immédiatement toutes les questions, mais ça pose un principe structurant pour comment on pense l'usage des logiciels dans une démocratie. Alors, je vous propose à présent peut-être de commencer à rentrer dans le vif de notre sujet. Et donc, le 22 juin 2020, le Premier ministre vous confie une mission d'information dont l'objet, et je vais citer cette lettre de mission, était d'analyser les opportunités stratégiques et financières ainsi que les freins à lever pour favoriser l'ouverture par défaut des données et des codes sources publics. Ils sont associés à vos travaux Stéphanie Combe, directrice générale du Health Data Hub, et Renaud Vedel, coordinateur national pour l'intelligence artificielle. Et déjà, je trouvais intéressant, peut-être, avant de rentrer justement dans les détails de cette mission, de s'arrêter un instant sur l'objet même d'une mission d'information, car on le sait ou on ne le sait pas, mais le travail parlementaire ne se limite pas à la présence en hémicycle pour les questions gouvernement ou pour les votes finaux sur les projets de loi. Il y a donc d'autres modalités du travail parlementaire, comme le sont les missions d'information, et celle-ci en particulier qui est donc issue d'une lettre de mission du Premier ministre. Alors est-ce que vous pouvez nous préciser ce qu'est une mission d'information, la particularité d'une mission d'information confiée par un Premier ministre ?
Eh bien, écoutez, oui, vous avez bien fait de repréciser que le travail parlementaire ne finit pas à être présent ou produire des amendements dans chacune des commissions dans lesquelles on peut siéger. Moi, je siège dans deux commissions. C'est une exception, la plupart du temps, on siège dans une seule. Et sauf qu'il y a une commission qui est un peu à part, qui est une commission de plein exercice, qui est la commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale, à laquelle je suis aussi rattaché membre en tant que commissaire, et je suis membre de la commission des affaires économiques. Il peut exister d'ailleurs des missions au sein de ces commissions. J'ai produit un certain nombre de rapports pour le compte de la commission des affaires européennes ou pour le compte de la commission des affaires économiques avec ma collègue Laure de la Rodière, qui sera peut-être la future présidente de l'ARCEP. On attendra le 20 janvier pour le savoir. Mais les commissions sont légitimes à déclencher des missions d'information, des missions flash, qui vont permettre aux parlementaires, avec le soutien des administrateurs de l'Assemblée nationale, de se pencher sur un sujet pour faire des propositions, réfléchir à un sujet donné. J'ai travaillé sur, en amont d'une levier sur la couverture numérique du territoire. J'ai travaillé sur le cyberacte, j'ai travaillé sur le free flow data, j'ai travaillé sur des sujets jamais très éloignés effectivement du numérique. Le SESAM, enfin, entre nous soit dit, puisque on est dans une mission, on se dit tout. Un parlementaire, je dirais qu'il aurait peut-être le sentiment d'avoir accompli son mandat s'il décroche une mission alors, du Premier ministre ou une remise de son rapport au président de la République. C'était le cas d'un de mes collègues, il n'y a pas très éloigné d'ici, sur la coopération internationale. Voilà, il y a une forme de hiérarchie des choses. Moi, en fait, pour être tout à fait clair avec vous, j'ai jamais insisté pour que ce soit le Premier ministre. Je crois savoir qu'il y a certains parlementaires qui font la tête quand c'est seulement un ministre qui leur confie une mission. Ils font la tête de minute, après c'est des grands adultes, donc ils passent à autre chose. Mais pour tout vous dire, en fait, cette mission, elle est son origine, c'est une discussion que j'ai eu avec Cédric Rose sur l'interopérabilité et la portabilité. Voilà. Je pensais qu'il y avait un sujet qui était nécessaire de revisiter à l'aune des questions d'actualité, en tout cas des sujets d'actualité qui pourraient traverser nos sociétés. Et c'est en discutant avec Cédric et en rajoutant un conseiller du président de la République et du Premier ministre qui l'idée finalement d'enrichir ce sujet d'interopérabilité ou de la liberté de choix, des outils, de devenir une forme de prolongation des réflexions qui avaient eu cours sur l'open data, les code sources et les données d'intérêt général, ce qui permet d'aborder ces sujets-là par ailleurs. Donc voilà, par construction, c'était comme ça, des semaines de discussion entre les parties pour savoir quel périmètre on lui donnait, c'était une difficulté donnée, et puis au mois de juin dernier, effectivement, Edouard Philippe qui confie cette mission et qui sera remise à un autre Premier ministre, puisqu'entre-temps, Edouard Philippe, une semaine après d'avoir remis le rapport, il était appelé à un autre destin. Et là, vous ne travaillez pas, bien évidemment, avec les services de l'Assemblée nationale, mais vous bénéficiez, comme Cédric Villani a pu l'avoir, de l'allocation de moyens que sont... notamment des personnes issues des différents corps d'inspection. Moi, c'était une douzaine de personnes, en plus de Stéphanie, que vous avez mentionné, et de Renaud. C'est à peu près le même taille d'équipe que ce dont a pu bénéficier Cédric Villani. Et vous devez être vigilant au fait de ne pas excéder les 6 mois. Vous êtes détaché de l'Assemblée nationale pendant cette période, toute tenue de siéger ni dans vos commissions ni à l'Assemblée nationale. Donc vous n'apparaissez plus dans les statistiques, évidemment. Ça s'étonne de ne pas m'avoir vu dans l'hémicycle. On a fait plus de 250 auditions entre septembre et la fin novembre. Et il faut faire moins de 6 mois parce que sinon vous n'êtes plus parlementaire. Et vous faites ça plus de 6 mois. Quand on considère que vous n'êtes plus rattaché à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'il y avait une deadline qui était précisément au mois de décembre, dans les délais de 6 mois maximum, qui était celui qui avait été confié. Celui qui était prévu à l'origine. Donc c'est une formidable aventure humaine. L'avantage que moi j'y ai vu, c'est de travailler avec des gens extrêmement compétents, issus de différents corps d'inspection, quasiment en logique interministérielle, ce qui nous a d'abord pas mal mobilisés pour avoir des réunions assez tard le soir pour tenter d'atterrir sur des solutions et des recommandations pragmatiques. Mais ce qui est une formidable aide, parce que au moment de remettre le rapport au Premier ministre, finalement, on avait entre nous trouvé des consensus et des compromis qui permettaient de ne pas avoir un tropisme d'une administration sur l'autre. L'économie contre l'environnement contre je ne sais quoi, la justice contre la sécurité. Il y avait des gens qui venaient des corps d'inspection, des ministères de l'Intérieur, de la Direction générale des entreprises, de l'environnement, et puis le soutien d'État Lab aussi, qui nous a permis, entre autres choses, de faire le bon choix sur une plateforme qui a permis de lancer une consultation un peu plus large au-delà des auditions que nous avons pu faire des benchmarks internationaux. Donc c'est une formidable aventure humaine, c'est ça que je retiens.
Ok, merci pour ces coulisses du travail parlementaire. C'est vrai que c'est vraiment des aspects qu'on voit difficilement. Donc c'est intéressant de voir comment se construit aussi le périmètre d'une mission comme la vôtre. D'un regard extérieur, vous parliez peut-être en termes d'ego de se voir confier une mission par le Premier ministre ou plutôt par un ministre. Ça donne aussi, ça joue beaucoup sur le poids politique de l'objet, du rapport qui va en sortir, de l'objet qui est cette mission d'information. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est important sans doute à lever. Là, vous avez répondu notamment à une question que je posais, c'est sur les moyens pour conduire vos travaux. Alors vous avez mené énormément d'auditions, plus de 200 si j'en crois les annexes du rapport, dont celle de l'April, en octobre de mémoire, qu'importe, c'est par transparence. Vous avez également fait usage d'une plateforme de consultation publique. D'ailleurs, vous avez utilisé une plateforme basée sur un logiciel libre, et ça, nous pouvons que le saluer, bien sûr. Pourquoi ça faisait sens pour vous de mener une consultation publique pour la conduite de vos travaux?
Parce que je vais vous donner les lignes rouges que je mettais, enfin en tout cas les lignes rouges, les lignes fortes que j'avais fixées à l'équipe, puisque c'est pas un membre dans l'équipe, mais j'avais une situation à part, à mesure où j'étais parlementaire porteur de cette mission. Il me revenait donc aussi d'en fixer, j'allais dire, les orientations, et de trouver là-dessus un accord, parce qu'on peut partir dans tous les sens. En même temps que vous avez cette liste de mission, vous pouvez faire un inventaire de ce qui était ouvert, pas ouvert. Moi, je voulais que ce soit pas un rapport de geek et que quelqu'un de 4 ans puisse le lire. Enfin, j'avais formulé comme ça, même si je sais qu'il y a des subtilités, des nuances, des aspérités de la technologie qui font que même, et surtout si on fait un effort trop important de vulgarisation, on perd l'essence même d'un certain nombre de substances de la technicité des choses qui rendent possible certaines choses et impossibles d'autres. Mais tendre vers une forme de vulgarisation, tendre vers une forme de rapport qui puisse être grand public. Ce qui veut dire, ça n'induit pas directement, mais on a pris le parti aussi d'assumer que plutôt que de faire un large inventaire des choses, on s'est intéressé à des cas d'usage. Et c'est par les use cases, en fait, que en réauditionnant, on a fait du contradictoire. Il y a parfois des gens qu'on a réauditionnés 3 fois, parce que je partais du principe que c'est pas le dernier qui parle qui a raison. Et vous avez des lignes d'influence dans cet écosystème entre les donneurs d'ordre, ceux qui produisent, ceux qui collectent, ceux qui mettent à disposition, etc. Et si vous n'écoutez qu'une seule facette, vous pouvez dresser un état des lieux qui n'est pas tout à fait fidèle à la réalité. On s'est attaché à essayer d'avoir le constat le plus proche de la réalité des choses. Et l'autre ligne force que j'ai fixée à l'équipe, c'est de dire on va rencontrer évidemment des obstacles, des objections, des difficultés. Surtout, n'y répondons pas en créant un comité ou une commission supplémentaire. Regardons avec l'existant quelle extension de périmètre, quel mouvement on peut opérer. Et évidemment, ne pas avoir l'obsession de répondre par la loi avec des textes de loi en permanence. Mais regardons ce qu'on peut tuner, ce qu'on peut bouger, qu'est-ce qu'on peut faire accepter par les organisations en présence pour que les choses évoluent favorablement sur un terrain. Alors, on parlera tout à l'heure de la partie code source et logiciel libre, mais c'est une part extrêmement importante consacrée à la data, de regarder comment on fait mieux circuler la donnée. C'est-à-dire que, je disais en audition, on n'a pas entamé cette mission en se disant d'un côté les amis de la fermeture, d'un côté les ayatollahs d'ouverture. Et tentons de réconcilier les deux. Il y a probablement des endroits où on ne pourra pas ouvrir de la donnée. Il y a des endroits où c'est nécessaire de le faire. Et entre les deux, il y a des modalités d'accès ou de partage de la donnée qui ne sont pas suffisamment explorées et qui permettraient probablement certains usages, certains bénéfices, certaines innovations, certains inventaires de ce pourquoi ça peut être utile, en conscience, en transparence, en création de richesse. C'est la raison pour laquelle on s'est jeté à corps perdu dans un grand programme d'audition. Je pense qu'on a mis 200, mais on était proche de 250 si je compte ce qu'on a écouté, réécouté, réécouté. Et vous n'avez pas vu tout le monde quand vous avez vu les 250 personnes. Parce que quand vous faites un peu de matchmark international, vous tapez des administrations qui sont assez nombreuses. Si vous voulez encore avoir une vision un peu plus profonde des choses, ça paraît assez légitime, qu'on puisse ouvrir encore plus largement à un public plus large le partage des constats qu'on avait pu dresser sur la première page. Si je ne sais pas, de les faire travailler sur l'état des lieux qu'on avait pu déjà, enfin, sur lesquels on avait pu se forger une opinion, mais de les questionner sur la pertinence de cet état des lieux et commencer à leur proposer de nous dire, selon vous, quelle serait la meilleure façon de corriger les choses. Voilà cette articulation, correspond, vous aurez fait le lien probablement à ce que je disais tout à l'heure de mon parcours professionnel, attaché à traiter finalement les causes plutôt que les conséquences des tellement plus simple de faire les conséquences. C'est-à-dire, à la limite, on fait le constat, on voit qu'il y a un truc qui ne marche pas, on corrige le truc qui ne marche pas. Mais corriger le truc qui ne marche pas, en vrai, ça passe idéalement par le fait qu'on s'intéresse à la raison pour laquelle les choses ne marchent pas et s'attaquer au problème.
Merci. Alors, la consultation, et après on va passer, je pense, au vif du sujet, qui est le rapport que vous avez remis en décembre. La consultation publique a quand même montré une très forte mobilisation en faveur des propositions relatives au logiciel libre. Pour les citer, je parlais, voilà, que les propositions de l'APRIL et du CNLL, qui est l'Union des entreprises du logiciel libre et du numérique ouvert, ont été les plus soutenues. Et est-ce que vous vous attendiez à cette mobilisation? Et est-ce que vous étiez, voilà, quel regard vous portiez avant et après sur le logiciel libre?
Non, mais je connais sa capacité à se mobiliser. D'abord, je participe de temps en temps ici à l'Agnon à Libre en fait. On fait contact avec des écosystèmes qui, de près ou de loin, sont soit totalement dédiés à cette logique, soit de façon très compatible. Encore une fois, moi, j'ai une vision du monde qui essaie de s'attacher à essayer d'en révéler les nuances et ne pas plonger dans les biais devant lesquels on veut s'enfermer, finalement, les bulles de conscience qu'on connaît tous, les zones de confort dans lesquelles on est, qui voudrait qu'il y ait une forme, finalement, le mot, c'est le monde se construirait qu'à force mentaliste. Non, il y a des choses sur lesquelles il y a des gens qui peuvent être en désaccord parfois, mais en même temps compatibles sur d'autres. Je connais sa capacité, la capacité de mobilisation des acteurs qui sont les promoteurs de l'idée du libre. Je n'ai pas été surpris qu'il y ait une mobilisation sur la plateforme. Donc, si c'était une autre, ça n'était pas surprenant non plus, parce que c'est pas un indicateur, enfin, je veux dire, c'est pas un indicateur pour moi, parce que l'important c'était ce qui se disait, pas forcément vous savez, parfois vous pouvez avoir une personne très distraite au fond d'une salle qui a une idée géniale, c'est aussi elle qu'il faut écouter, je suis perturbé par le bruit, je suis plus intéressé par le contenu, et pour le contenu était pertinent.
Oui, bien, on voit d'ailleurs l'accueil qu'a reçu votre rapport, et on va en parler justement par les communautés libristes, que ce soit le CNL ou l'APRIL, puisqu'on en parlait, et notamment dans notre communiqué, vous montre plutôt, voilà, qu'il y a une réception assez favorable, du moins à votre rapport. Alors, il y a pas mal de questions, quelques questions qui sont liées au déroulé des travaux, notamment avec un sujet qui a été chaud en 2020, c'est celui du Health Data Hub. Alors, sans forcément rentrer dans les grands détails, une personne nous demande sur le chat comment s'est passée la collaboration avec Stéphanie Combe, par rapport à son choix d'écrire sur Microsoft. Et est-ce que vous connaissez toujours en lien avec le Health Data Hub les initiatives comme Interop qui promeut et soutient l'utilisation du logiciel libre dans le domaine de la santé?
On les a auditionnés, Interop, on a évoqué ensemble les différents choix d'architecture, d'informatique distribuée ou pas. Hein. Si je me souviens bien, les schémas d'Interop, ils devaient être à la troisième slide de leur présentation, parce que j'ai encore en mémoire qu'on avait fait un partage d'écran. Je vais vous répondre sur Stéphanie, mais je vais vous faire un clin d'œil. Au début, j'ai dit à mes équipes, puisqu'on était en confinement, on va donc devoir conduire des auditions à distance. Quand même, une mission sur le libre, le code source, open data, on peut pas succomber et tomber sur Zoom. On a testé des outils qui n'étaient pas effectivement Zoom, qui n'étaient pas Google Meet ou je ne sais quoi encore, tentant d'être assez compatibles avec l'idée qu'on se fait finalement de la promotion d'outils différents de ceux qui nous sont proposés par les grandes plateformes américaines. Et puis on a été d'échec en échec en ayant balayé une dizaine d'outils, plus la liste en tête. Je pense qu'on a fait à peu près tout ce qui pouvait exister au moment où c'était disponible. Parce qu'il fallait passer du temps à demander à changer le firewall, parce qu'il fallait demander du temps à changer le navigateur, parce que ça allait aider telle chose, etc. Et puis on a fait 250 auditions, on commençait très tôt le matin. J'ai essayé d'installer malgré tout un break en matinée pour que certains puissent fumer sa clope, soit faire d'autres choses. Mais on ne pouvait pas se permettre de perdre un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure entre chaque audition, parce que je vous assure qu'on était sur un rythme très soutenu, que les corps d'inspection étaient tous là. Et donc, on a dû renoncer, c'était un crève-cœur, et les copies d'écran de ce qu'on a tenté de rendre le plus public possible, même si on n'a pas rendu évidemment les auditions au public, et je pourrais revenir dessus si c'est une question, on les a conduits assez massivement, on ne peut pas dire majoritairement, mais quasiment sur Zoom. C'est un reproche qu'on pourrait me faire. Et donc, c'est pour ça que je l'évacue tout de suite en donnant l'explication. Alors, je sais bien qu'ici ou là, peut-être certains vont dire, ah, mais si, il y a tel outil qui marche. Je vous assure, je pourrais vous faire la liste si nécessaire qu'on a bien testé d'autres solutions.
Bah, je vous crois, parce qu'effectivement, avec l'APRI, je ne peux que vous croire, puisqu'avec l'APRI, nous avons trouvé une autre solution. Enfin, pour le témoignage, justement, alors c'est vrai que vous avez beaucoup fait Zoom, mais il faut bien reconnaître que vous avez fourni autant d'efforts que possible pour passer par une autre solution pour contourner les problématiques. Donc avec l'APRI, nous avons utilisé BigBlueButton, et vous êtes intervenu, vous, par téléphone. Voilà, donc ça a été compliqué, mais vous avez fait cet effort, et je ne peux que le saluer. Je vous propose, pour qu'on s'aère un peu l'esprit, et avant de rentrer dans le sujet du rapport, de faire une courte pause musicale. Nous allons écouter un autre morceau donc de l'artiste idyllique recommandé pour nous aujourd'hui par Rick Fredin. Il s'agit de Four of Dreams. On se retrouve juste après. Une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune
93.1.
Écoutez Four of Dreams par Idyllic, disponible sous licence Creative Commons partage dans les mêmes conditions, CC BY SA. Vous retrouverez les références sur le site april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des possibles 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April, et nous discutons avec Éric Botterel de son rapport parlementaire, de son rapport sur l'ouverture des données et des codes sources. Éric Botterel, vos travaux sont concrétisés et synthétisés dans un rapport de 206 pages et de 37 recommandations, publié et remis au Premier ministre le 23 décembre 2020. Ma première question d'ordre général, pour rentrer dans le détail de l'objet de votre mission, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'ouverture des données et des codes sources ? Il suffit de les mettre en ligne pour considérer que ces données et codes sources sont ouverts ?
Non, malheureusement non. Et d'ailleurs, je pense qu'un certain nombre de recommandations font état de la nécessité de rapprocher à la fois les producteurs et les utilisateurs de la donnée. Je vous disais tout à l'heure, l'enjeu qui m'a été, en tout cas la mission qui m'a été confiée, c'était pas tant finalement de dresser l'inventaire de ce qui était ouvert et de ce qui méritait de l'être encore, que de regarder quels étaient les leviers, les freins et finalement les possibles derrière qui ont déjà été figurés par d'autres rapports. Il y a eu ce rapport, il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres après. Mais sur lesquels on pourrait objectiver que ça va pouvoir assurer plus de transparence, plus de confiance, de l'innovation, de la sécurité, de la souveraineté, enfin, il y a différents axes sur lesquels on pourra probablement dialoguer dans le reste de l'émission, autour de ce que finalement tel choix d'architecture ou tel choix de paradigme encourage ou bouge le curseur dans un sens plutôt que dans un autre. Donc le fait de faire du switch-on, de publier de la donnée, n'est pas en lui-même suffisant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on formule des recommandations en termes organisationnels ou de portage politique qui permettent de rapprocher les écosystèmes. Il existe d'ailleurs probablement des jeux de données qui sont ouverts, que certains attendent à certains endroits et dont certains méconnaissent qu'ils sont ouverts ailleurs. C'est un constat qu'on a pu faire. Je ne vous dis pas ce qui se passe au sein de l'administration publique où il y a effectivement des choses qui ne communiquent pas d'un étage à l'autre. Mais il ne suffit pas en tant que tel de publier, il faut pas savoir c'est publié. Il faut susciter l'intérêt de la communauté qui peut s'en saisir. Et surtout rester en contact avec elle pour connaître ses besoins, les moments venus pour ouvrir des choses supplémentaires, si ce n'était pas, j'allais dire, une priorité du moment pour l'instance qui les collecte ou qui les détient. Tout ça, c'est une forme de mayonnaise, ou en tout cas de mutualisation, de meilleur échange entre les hommes et les femmes, au profit de la capacité de se ressaisir des choses qui sont ouvertes. Donc, j'essaie de répondre simplement à votre question. L'open data se résume pas, en tout cas, l'open data, les sujets qui ont été ceux de la mission ne se résument pas simplement, encore une fois, à faire un inventaire de ce qui est fermé et puis de dire maintenant, il faut ouvrir.
Alors, merci pour cette introduction sur ce sujet. Alors, votre travail, effectivement, portait sur les données publiques et sur les codes sources en particulier. Vous vous en douterez, la question des codes sources et de l'ouverture des codes sources et de logiciels libres est ce qui nous intéresse plus particulièrement à l'April. Et pourquoi est-ce que, selon vous, et ça, je pense que le rapport le décrit bien, pourquoi est-ce que, selon vous, c'est important pour les pouvoirs publics, dans leur mission de service public, d'ouvrir leurs codes sources ? Et si vous me le permettez, je vais citer un passage que je trouve très bon dans votre rapport, avant de vous rendre la parole. S'agissant de l'ouverture des codes et de l'utilisation de logiciels libres, il faut structurer la communauté du secteur public et renforcer l'appui qui lui est apporté. Le logiciel libre n'est pas une idéologie déconnectée des besoins des administrations et ses enjeux ne se résument pas à la question de l'utilisation de LibreOffice. Il est au contraire le moyen de créer enfin du partage et de la mutualisation dans le secteur public, d'éviter que deux administrations s'épuisent sur un même problème sans le savoir et sans se parler, enfin de permettre à l'administration et à l'économie de s'enrichir mutuellement en développant ensemble des outils d'intérêt général. Et je pense que avec ça, en fait, vous balayez vraiment tout ce que le logiciel libre et l'ouverture des codes sources permet d'apporter, voilà, dans la mission de service public.
Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter, parce qu'en plus, je me reconnais dans ce qui vient d'être dit, puisque quelque part, on l'avait écrit. S'il y a eu, pas de scratch, c'est-à-dire l'ouverture des codes publics a quand même progressé de manière significative depuis 2015, en fait, c'est très hétérogène, ça reste assez confidentiel, c'est le biais de quelques minorités d'acteurs publics. Je crois qu'on a pu faire un benchmark plus ou moins, consistant, même si l'échantillon de départ ne permet pas d'avoir une vision, honnête du sujet. Donc, on va voir que des axes de progrès, mais on peut penser, et nous, on pense, qu'il faut aller plus loin sur le sujet. Vous l'avez dit, il y a un sujet de meilleure efficience du service rendu à la population, ce qu'on appelle le service public, finalement, par le partage au sein même de l'administration. Ce sujet-là me paraît, moi, tout à fait essentiel, et dans les mots que vous venez d'employer, je me retrouve bien évidemment. Pas de sujet là-dessus.
Et vous parlez de recommandations, peut-être qu'il fera justement intéressant de voir comment votre rapport propose concrètement d'organiser cette ouverture pour qu'elle puisse produire ses effets. Alors vous me corrigerez, mais selon April, voilà, le rapport pour nous met vraiment en avant l'importance d'une coordination à l'interministériel, donc une approche vraiment transversale, et qui serait selon le document vraiment l'échelon le plus pertinent pour initier et porter ces dynamiques d'ouverture. Alors en plus, cela fait écho à une des propositions que l'April avait porté lors de votre consultation publique, qui était la création d'une agence ou d'une mission interministérielle du logiciel libre. Alors vous me corrigez, moi j'ai l'impression que cette proposition, on va un peu rentrer dans ces détails-là, la proposition que vous faites s'articule vraiment sur deux recommandations. C'est d'une part de renforcer, alors il y a ce qu'on appelle l'administrateur général des données, ça existe déjà. Vous souhaitez qu'on le renforce pour qu'on fasse rentrer dans son périmètre d'action la question des algorithmes et des codes sources. Et parallèlement, la création d'une mission du logiciel libre au sein de la direction interministérielle du numérique et par laquelle la mission serait portée pour dynamiser et impulser, c'est une politique logiciel libre au niveau interministériel. Que vous, vous êtes informé, confirmez ce que j'ai dit et puis surtout développer.
Oui, bien sûr. Donc il y a un changement de périmètre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la construction de cette mission, l'objectif n'était pas de créer des dispositifs divers et variés. Là, typiquement, sur la partie administrateur général des données, on lui adjoint la partie algorithmique et les codes sources. On a aussi fait la proposition qu'il puisse y avoir à l'image en UK un open source programme OSIS. En train dans le détail de chacune des missions de chacun, mais l'idée, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est de permettre une meilleure mutualisation et surtout une conduite interministérielle du sujet. Je vous évoquais à deux niveaux. Si les efforts sont fournis, mais avec des impulsions différentes au sein de chaque ministère, on n'y arrivera pas. D'abord, aujourd'hui, l'action publique, elle se conduit principalement en interministériel. Les enjeux, les défis auxquels on doit faire face sont des défis et des enjeux qui sont d'ordre interministériel. Personne ne peut nier que sur le sujet, par exemple, sanitaire, il y a des sujets qui relèvent de la mobilité des citoyens, qui ne sont pas à proprement parler des sujets qui sont aujourd'hui abordés par le ministère de la Santé. Demain, des enjeux climatiques, on va vraisemblablement avoir à manager des données qui sont à la fois des données sanitaires ou des applications. Je mets tout ça dans un seul paquet. Mais vous voyez bien qu'il y a une forme de... il y a l'extension du domaine de la lutte. On n'est plus sur les verticalités des choses. Et donc, il est nécessaire de passer d'un état où, finalement, en silo, ça va marcher assez bien. Il faut avoir au sein de chaque administration quelqu'un qui va être responsable d'eux, même s'il n'est pas responsable de la partie de quelque chose, il se consacre uniquement aux données. Mais un, si vous les privez, en tout cas si vous n'insufflez pas la culture et la nécessité impérieuse de continuer à être en contact avec l'écosystème, ce que c'est pas vous qui faites, mais on est une forme de délégation et de mise à disposition pour que d'autres s'en saisissent, si vous ne faites pas vivre cet écosystème, ça ne marche pas. Et si vous ne le faites pas en interministériel, vous passez à côté des grands enjeux qui sont ceux des défis que nous allons avoir au 21e siècle. Moi, j'ai toujours à l'esprit la façon dont les écosystèmes qui ont donné aujourd'hui, notamment avec des grands acteurs américains, mais comment ils sont nés à Berkeley, comment ils sont nés dans certains endroits de territoire en France, où quand vous faites du start-up weekend ou du hackathon, vous constituez des équipes et avec des gens qui parfois ne se connaissent pas. Et c'est la somme des compétences de ces gens qui vont viser une finalité qui va produire quelque chose qui est plus riche que si vous faites des choses avec cette verticalité, cette vision en silo. C'est déjà écrit, c'est à rendre à César ce qui appartient à César, c'était déjà une approche de rupture, entre guillemets, dans les écritures du rapport de Cédric Villani sur l'approche au niveau de l'intelligence artificielle. Sur les jeux de données, on pourrait s'amuser à faire une proposition sur la partie bac à sable, on pourrait s'amuser à faire le bac à sable sectoriel, etc. On n'a pas du tout cette approche-là, et on pense qu'il faut favoriser de l'interministériel, de l'interadministration, de l'ouverture au plus grand nombre, parce que c'est une impérieuse nécessité, et pas pour se faire plaisir et pour se marquer par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, mais parce qu'encore une fois, les enjeux qui sont devant nous vont devoir mobiliser les sources de données, de la pratique, qui n'est pas forcément dédiée.
Ce que je trouve très intéressant dans votre rapport, et là vous abordez cette question, et qu'on n'a pas toujours tendance à retrouver dans les auditions, dans d'autres documents comparables, on a vraiment l'impression que vous invitez les pouvoirs publics à s'engager auprès des communautés, à devenir des membres actifs des communautés du logiciel libre, tant pour favoriser l'attractivité en termes de compétences, pour valoriser aussi, vous le disiez ce que je citais, à la fois l'enrichissement mutuel de la société civile et des administrations, et je trouve que c'est c'est quelque chose de très important. J'aime beaucoup cette citation. La France doit accompagner ses talents comme elle le fait pour des sportifs de haut niveau et s'appuyer sur eux pour renforcer l'attractivité du secteur public grâce au logiciel libre. Et on voit voilà, par cette inscription, le fait de s'inscrire dans les écosystèmes, comme vous le disiez, on voit tout l'enrichissement mutuel qu'on peut en tirer.
Alors, la question... c'est les recettes du succès. Je ne vais pas, encore une fois, mais j'essaie d'être cultiver un peu d'humilité dans les travaux que j'ai faits. Très honnêtement, j'essaie de regarder le réel et de regarder ce qui s'est passé par le passé et de regarder quelles ont été les bonnes pratiques. On prend Python, qui est à l'origine un truc d'INRIA. Si c'était resté dans l'INRIA, que l'INRIA s'était désintéressé de la manière dont ça pouvait être saisi par d'autres, on serait probablement resté dans un outil assez confidentiel. Donc l'ouverture, qui n'est pas, j'allais dire, quelque chose qui est naturellement ancré chez l'homme. C'est-à-dire, un sujet de protection, faire des murs que des passerelles. Voilà, ça, c'est notre histoire, c'est ça depuis des années. La sécurité, la protection, et puis le truc dans lequel on baigne depuis quelques années maintenant autour du RGPD, c'est effectivement un tropisme aussi autour de la protection, la fuite de données. Et la réponse qu'on apporte à ça en permanence, c'est plutôt de monter des murs. Bon, nous, on pense, à l'image de ce que fait ANSI, hein, avec le CRT par exemple, à l'image de ce que font d'autres encore, c'est la meilleure façon de se protéger, c'est de se confronter, c'est de s'ouvrir, et c'est de mesurer à quel point soit on est vulnérable, soit. Voilà. Et on peut apprendre des tas d'exemples, y compris sur les plus sensibles. Et l'ANSI se figure quand même d'exception, mais presque parmi les autorités de l'État, c'est quand même celle qui prône le plus le recours au logiciel libre, c'est elle qui ouvre le plus ses travaux en définitive, même tout en conservant une part qui, ayant, chacun comprendra, comme étant nécessairement secrète pour la conduite d'un certain nombre de ces opérations. Mais si on la compare à d'autres administrations qui sont très précautionneuses sur un certain nombre de choses, voilà, c'est que ça ne doit être pas plus compliqué de publier des outils, des codes sources de certains outils qui sont ceux de l'ANSI, que d'ouvrir une code source de Parcoursup, des calculs de l'impôt, ou de la manière dont, je ne sais pas, moi, je sais que tel élève dans tel établissement.
Oui, il y a beaucoup d'exemples. Donc, je précise que l'ANSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et qui est reconnue largement pour son savoir-faire. Alors, on ne va pas forcément en parler parce que le temps avance vite, mais je trouve très intéressant dans votre document la manière dont vous déconstruisez un mythe sur la sécurité. Le fait d'ouvrir les codes sources est plutôt garant de sécurité et de garant de confiance dans l'action publique. Il n'est pas de raison d'y voir un risque pour la sécurité. Alors, ce qui est très important pour l'April qu'on a remarqué dans votre rapport, c'est que vous abordez quand même les considérations de moyens, de comment une telle agence du logiciel libre au sein de l'interministériel peut produire des effets, peut donner cette impulsion. Vous parlez notamment d'équivalents temps plein qui doivent être dédiés, parce qu'on sait bien que si une mission est confiée à une entité déjà existante à moyen constant, l'effet va se diluer, il n'y aura pas du tout, on ne pourra pas espérer, le projet restera lettre morte. Voilà, pour vous, l'importance d'avoir des vrais moyens dédiés au sein de l'administériel, avec des périmètres d'action clairement définis, des équivalents temps plein, est-ce que vous identifiez ça comme quelque chose de clé pour que ça puisse, votre recommandation puisse porter ses effets?
Oui, ça l'est. On ne peut pas nier que parmi les recommandations que l'on formule, il sera peut-être nécessaire de passer par de l'intensification ou de la pérennisation en entrepreneur matériel. L'intérêt général, on s'en fait un bel exemple aussi, mais et soyons. Ce rapport, je le mettais au Premier ministre. Ça veut dire, vous savez, monsieur le Premier ministre, pour que ça marche, il va falloir multiplier par deux les équipes des fonctionnaires de l'État. Donc on lui explique qu'à certains endroits, il va falloir recruter, renforcer, parce qu'on va mettre telle ou telle priorité cohérente avec une politique globale. Mais derrière, il y a des gains qui vont s'opérer. Enfin, j'ai dit. Aujourd'hui, sur la partie libre, vous avez quand même des collectivités, et pas forcément des collectivités de grande taille, qui recourent au libre plutôt qu'à des solutions entre guillemets propriétaires, et qui s'en sortent très bien. Et elles s'en sortent d'autant mieux qu'elles le font de concert avec des communes voisines, etc., etc. Donc je viens pas là que non seulement elles font vivre un écosystème, en plus elles s'offrent la possibilité d'être relativement souveraines, en tout cas indépendantes d'un certain nombre de. En tout cas pas enfermées dans les standards technologiques dont elles ne décident pas de leur évolution. Donc là, c'est pareil, je disais en avant-propos, vous savez, le match de ceux qui sont l'ouverture contre la fermeture, le monde n'est pas celui-là. On peut réconcilier un certain nombre de positions. C'est pour ça que j'ai plutôt du bonheur à travailler avec Stéphanie Combe. Je reprends la question qui vous était posée tout à l'heure, c'est vrai, c'est difficile de travailler avec quelqu'un qui finalement a confié, entre guillemets, l'architecture du Hub Data Hub à Microsoft, alors que on a eu des débats avec Henri Vernier, avec d'autres sur ce sujet. Mais voilà, mais ne voyons pas le monde comme d'un côté d'affreux.
Oui, bien sûr.
Personnes qui seraient sous le coup des lobbies américains, et puis de l'autre, des révolutionnaires. Non, il faut rentrer dans le cœur de ce sujet. Et là, vous avez raison d'insister, c'est que je l'ai fait et vous l'avez fait. On peut prendre des exemples d'administrations ou d'autorités qui se sont ouvertes au libre, sans que pour autant ça ait été pour eux nécessaire de rajouter des effectifs. Okay.
Oui, ça s'organise.
Je reviens sur la circulation de données, parce que c'est très intime entre la circulation de données et l'ouverture des ressources. Mais les ressources, on verra peut-être sur les histoires de transparence, de confiance, de mettre en tournant rôle les citoyens dans le sujet. Mais ne serait-ce que le partage de données, quand un État, de Bercy ne partage pas avec l'État du dessous, et que l'État du dessous reproduit finalement les mêmes données que là-dessus, franchement, j'ai pas besoin de passer 3 heures avec le Premier ministre pour expliquer qu'il y a des choses à gagner, à avoir un peu plus de mutualisation, d'ouverture, de partage, de transparence. Voilà. Donc, et ça a été bien entendu. Il y aura des annonces au mois de février.
Annonces au mois de février. Bah, c'était une des questions du calendrier du Premier ministre sur le sujet. Donc on attendra les annonces au mois de février. Et c'est un des freins, un des points de blocage potentiels qui identifie bien votre rapport. Je pense qu'il est vraiment, c'est un de ceux qui apparaît le plus quand même. C'est cette question. Vous insistez beaucoup dessus sur l'importance d'un portage politique et administratif. Voilà, le rapport dit que si le gouvernement n'anime pas cette politique, la France manquera une occasion majeure de renforcer tout à la fois la confiance dans l'action publique, on y revient, l'efficacité des politiques publiques et la connaissance et l'innovation de l'ensemble de l'économie. Et allons même jusqu'à dire qu'en l'état actuel des choses, la mission craint que ces recommandations ne soient pas portées et suivies. Comment vous travaillez avec le Premier ministre pour vous assurer... le titre, je me permets de citer le titre de communiqué de l'April, hein, le Premier ministre se montrera-t-il à la hauteur du rapport Botorel? Parce que nous, on pense qu'il y a d'excellentes perspectives, ça dresse des lignes de mire très intéressantes, ça pose des constats concrets, des propositions concrètes très intéressantes. Est-ce que ça va se produire des faits? Est-ce que le Premier ministre sera à la hauteur? Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense qu'il y a des choses qui bougent. D'abord, je pense que le Premier ministre n'est pas insensible au fait que quand on dit que si on avait ouvert les modèles Pasteur, on aurait peut-être affronté la crise pandémique de manière un peu plus sereine. Je ne dis pas qu'on aurait changé la chose. Je ne dis pas qu'on ne serait pas dans la situation dans laquelle se trouve le pays en termes d'arbitrage aujourd'hui de manière différente. Peut-être qu'en termes d'anticipation, peut-être qu'en niveau d'adhésion de la population, c'est un certain nombre de mesures que nous sommes amenés à prendre, il y aurait eu moins de questions. Donc on voit, pour prendre cet exemple, puisqu'il est cité dans le rapport, et que je peux vous assurer qu'il n'y a pas un exemple dont on ait pensé qu'il n'était pas très politiquement correct, qu'on n'aurait pas mis dans le rapport. Moi, j'ai dit, on assume tout, et j'assume tout, et j'assumerai tout, au moment où ça sera écrit, et après, quand il faudra le défendre. Donc, on n'a pas pris de gants, je veux dire, quand on a parlé de ça, de la délinquance de la sécurité intérieure, etc. Tout ce qu'on a pu voir ne marchait pas, on en a parlé. La question que vous posez, c'est en quoi, finalement, le politique peut être convaincu de la pertinence des choses. Bah, là, c'est pareil, on a repris des exemples. Donc, je prends le premier, Nouvelle Pasteur, ça parle au Premier ministre, forcément, je suis sûr que ça lui parle. Et évidemment, par capillarité, il comprend assez vite que le reste, c'est pareil. Enfin, je n'ai pas besoin de faire une démonstration par l'absurde. Ce qui marche pour le Pasteur marche aussi pour autre chose. J'ai eu une discussion assez régulière aujourd'hui avec Olivier Véran sur la campagne de vaccination. C'est pareil, à partir de quel moment on va dire il y a une dose, il y a 2 doses qui ont été données, on est sur des vaccins à 2 doses, on peut dire qu'on a vacciné tout le monde quand on a fini une injection. Finalement, on a contactualisé avec des entreprises privées pour l'agenda des prises de rendez-vous. Est-ce qu'on a suivi, est-ce qu'on a limitrix sur le délai moyen entre la première et la deuxième, par région, etc. Et je vois qu'Olivier Véran commence à intégrer, enfin, ça commence. Et c'est lui-même d'ailleurs qui m'appelle, qui dit tiens, Eric, ça va être, enfin, utilise Open Access, l'échange avec Guillaume Crozet tout à l'heure. Je ne pourrais pas lui faire changer tout de suite, pardon, d'Open Access en Open Data, mais lui-même dit voilà, je veux qu'on mette des stocks en Open Data, et ça sera fait avant la fin de la semaine, etc. Donc je vois bien qu'il y a des choses qui ne bougent pas pour faire plaisir avec Botorel. Je suis là encore pour 18 mois, peut-être un peu plus, si je m'en présente et que les électeurs le veulent. Le sujet, c'est effectivement que si ce n'est pas porté au plus haut de l'administration, et par le politique, il y a peu de chances que l'administration, qui est plutôt réticente à faire un truc en plus, qui considère que c'est un truc en plus, le fasse. Donc moi, je me félicite que le Premier ministre, Olivier Véran, et puis Amélie de Montchalin, pardon, qui vient de publier son baromètre la semaine dernière. Notre baromètre, celui de l'action publique, j'explique à Amélie qu'aujourd'hui, elle publie ce baromètre à partir des jeux de données qui sont disponibles. Et ce que j'explique, c'est que demain, si on met en œuvre l'ensemble des recommandations, elle n'a plus le choix à faire entre le menu ou la carte, et qu'elle pourra choisir finalement et publier massivement un certain nombre de résultats des jeux de données sans se soucier de savoir si c'est disponible ou pas disponible. La question aujourd'hui, c'est que finalement, on fait avec ce qui est disponible, en présumant que ça l'est peut-être. Et c'est ce changement de paradigme qu'on doit opérer pour faire en sorte que la puissance publique, le premier chef duquel le politique, puisse se dire, sous l'influence de l'ère des citoyens, qui pourront lui demander d'avoir de la transparence et de l'accès à l'information sur la manière dont les choses sont construites, que ce soit un bout de soft ou que ce soit de la data pure et dure, statique ou dynamique. Voilà.
Attends, tu... bon, en tout cas, on espère que le Premier ministre, comme l'ensemble du gouvernement, se saisira de votre rapport pour enfin définir une stratégie globale sur l'utilisation, la publication, voilà, les politiques de contribution au logiciel libre, le recours au code source. En tout cas, voilà, l'April y veillera et restera bien sûr à la disposition du gouvernement pour apporter son expertise.
Il n'y a, pas de clause de revoyure, enfin, peut-être c'est utile que je vous dise ça, il n'y a pas de clause de revoyure sur cette mission, mais le Premier ministre, d'abord, pris un peu plus de temps que ce qu'il avait prévu de prendre au moment où on a remis le rapport, parce qu'on a discuté de plein de choses, qu'il y avait 4 ministres à ses côtés qu'il avait invités, et il a conclu en disant qu'il me confiait à la mission, et Eric Bottorel en particulier, à moi-même, donc, le fait de vérifier que les recommandations seraient bien mises en œuvre. Donc, je veux dire que ce n'est pas un rapport qui va servir à caler son notebook pour avoir les yeux à la bonne hauteur quand on fera sa prochaine visioconférence. En tout cas, j'espère. Et même si on était inquiet, on a eu raison d'écrire, parce que du coup, ça suscite une réaction qui est de se dire on va faire des choses. Donc moi, je redeviens parlementaire, je reviens à mes travaux de l'Assemblée nationale, mais je n'abandonne pas le suivi de l'application des recommandations qu'on a formulées, et je serai vigilant, sans pouvoir coercitif. Mais
est-ce que vous interrogerez peut-être le directeur du interministériel numérique, Nadi Bouana, qui est auditionné ce jeudi par la mission d'information sur la souveraineté numérique? Il me semble que vous en êtes membre.
Oui.
Eh bien, on suivra en tout cas cette audition. Notre échange, malheureusement, le temps file, nous sommes en direct. Est-ce que vous aurez une minute ou deux vraiment un mot de conclusion, si vous souhaitiez, par exemple, qu'on retienne une idée forte de votre rapport, en une minute?
Non, j'ai pas d'idée forte, parce que je voudrais pas hiérarchiser les choses. D'abord parce qu'on a fait cette construction, qui est une construction dont on a tenté de rendre homogène et complémentaire. Donc je tomberai pas, ce n'est pas un piège que vous me tendez, mais comme c'est la question qui revient assez souvent, finalement, c'est quoi le point clé ou la recommandation forte? On a tous à l'esprit celle qu'on aimerait idéalement qu'elle puisse être mise en œuvre, mais franchement, c'est pas pour faire l'apologie de toutes les recommandations que je renvoie à l'idée que tout ça est une forme cohérente et un ensemble cohérent. Non, mais je veux remercier l'April, parce que je suis sur votre antenne et que c'est son délégué de l'impact public qui questionne depuis tout à l'heure. Je vous remercie pour le travail que vous faites au quotidien, je vous remercie à la fois de la confiance et en même temps de l'exigence que vous portez vis-à-vis de ceux que vous interrogez. Je vous remercie de comprendre que parfois on peut faire les choses et que parfois on ne peut pas les faire. Et je vous remercie d'un dialogue constructif. Moi, c'est ça qui me paraît important dans une société qui a commencé à se fracturer pour la moindre des choses. Il y a encore des espaces où on peut se dire qu'il y a des choses possibles, qu'on peut tendre vers le même horizon, l'idéal, pas toujours au rythme auquel les gens voudraient que ça puisse être atteint. Et c'est ça qui me paraît essentiel, c'est de rassembler, réconcilier et faire en sorte qu'on puisse atteindre des objectifs communs. L'objectif commun, c'est que l'action publique, elle gagnera de toute façon à être de toute façon plus transparente, même si, et là aussi, je tiens à dire ça, la transparence, c'est pas la confiance automatique. Ça se saurait, ça fait longtemps que les démocraties, les grandes démocraties, soient transparentes. C'est pas parce que vous rendez les choses publiques que derrière, elles sont mieux comprises. Mais dans le sens, c'est certain que ça ne marche pas. C'est-à-dire que si vous les cachez, vous êtes très certain que vous rendrez difficile l'adhésion de la population aux politiques que vous menez. Donc en fait, il n'y a pas d'autre choix que d'ouvrir, il n'y a pas d'autre choix que de faire confiance au travail collaboratif, collectif et de la mise en commun.
Voilà. Une très belle conclusion qui fait d'ailleurs le pont avec notre première chronique sur l'importance de la transparence, qui n'est pas une solution à tout, mais qui est un élément indispensable et minimal pour une démocratie qui fonctionne et pour que plus les citoyens puissent se saisir des politiques publiques. Un grand merci à Éric Bottorel, donc député des Côtes d'Armor et auteur d'un rapport pour une politique publique de la donnée. Merci encore d'avoir passé du temps avec nous, je vous souhaite une très belle fin de journée, monsieur Bottorel.
Merci, vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, nous allons faire à présent une pause musicale. Nous allons donc écouter le dernier morceau sélectionné pour nous par Eric Frodin. Il s'agit de Reminiscence par Idyllic. On se retrouve juste après. Une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune,
93.1. Thank you.
Alors, nous venons d'écouter Reminiscence par Idyllic, un morceau disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC BY SA. Vous retrouverez les références sur le site april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur la radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April, et nous allons passer à notre dernier sujet. Alors comme je vous le disais, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Calame en studio et masqué pour sa première chronique de 2021. Donc bonne année Vincent.
Et bonne année,
je te laisse la parole.
Oui, alors le titre de ma chronique c'est « Des goûts et des couleurs, on ne discute pas ». Alors on connaît cet adage hein, qui rappelle la subjectivité de nos appréciations sur ce qui est beau et ce qui ne l'est pas. Alors au passage, hein, il viendrait du latin. Si vous avez écouté mes présentes chroniques, vous savez que j'ai un petit faible pour les citations latines. Alors c'est pour ça que je résiste pas au plaisir de la citer une extension. Donc en latin, ça donne « De gustibus et coloribus non disputandum », qui peut être abrégé à l'oral par « De gustibus ». Alors, bon, je vous rassure, je ne vais pas parler ici de questions fondamentales parmi les libristes, comme « Faut-il écrire son code sur fond d'écran noir ou blanc ?» ou bien « Faut-il indenter son code avec des tabulations des espaces ?» C'est des sujets de débat sans fin qui ne seront jamais tranchés, parce que justement, hein, « De gustibus et, », etc. Non, là, pour cette chronique, je veux rendre hommage aux personnes dont c'est précisément le métier de gérer les goûts et les couleurs et qui sont un maillon essentiel de la production informatique, en particulier des sites web. Je veux parler des graphistes.
Et qu'est-ce qui t'a donné envie de rendre cet hommage ?
Alors, c'est parti d'une boutade lors d'un échange avec Antoine Bardelli, qui est un pilier du groupe Sensibilisation, dont je pense que les travaux ont souvent été évoqués ici, qui d'ailleurs sont affichés dans le studio. Si c'est parti d'une boutade, mon hommage est tout à fait sincère, parce que plus qu'un maillon, les graphistes sont à la fois à l'amont et à l'aval de la production d'un site web. Surtout partir de cet exemple des sites web. En amont, parce que souvent les clients d'un site web, hein, je dis client, ça peut tout aussi bien dans le cas d'une prestation qu'un groupe, un collectif. Donc les clients donc commencent vraiment à se projeter dans un futur site web que lorsqu'ils sont face à eux la proposition de maquette proposée par le ou la graphiste. Avant, vous pouvez évoquer avec eux structure de données, scénario de circulation, bref, de tout ça, ça reste abstrait. La maquette, souvent, qui est souvent une image qui est semblable à une capture d'écran, c'est ça qui va leur permettre d'entrer dans le concret du site. Dans mon expérience, j'ai vu que beaucoup d'éléments essentiels, par exemple dans l'organisation des données, et donc dans le futur code que moi j'aurais à écrire, parce que moi je suis pas graphiste, mais je suis du côté du code, donc beaucoup de ces éléments apparaissent grâce aux réactions face à la maquette. Par exemple, telle personne va trouver intéressant de mettre un bloc avec les auteurs de la page à tel ou tel endroit, et c'est là que vous découvrez que, dans la discussion, qu'il faudrait que les auteurs aient leur propre page à eux sur le site. Évidemment, c'est aussi le graphisme qui va susciter le plus de discussions au sein du collectif qui veut mettre en place le site. De gustibus, comme nous le disions en introduction, dès qu'il s'agit de mise en forme, chacun une opinion. Et je ne parle pas des cas où le nouveau site web est l'occasion d'élaborer un nouveau logo. Il va falloir s'armer de patience pour arriver à un consensus dans le groupe. Le ou la graphiste va devoir faire de nombreux allers-retours et multiplier les propositions. Donc on voit que plus la réflexion et les échanges sont poussés à ce stade donc du graphisme, plus fluide sera la suite. Une bonne proposition graphique vaut pour moi tous les cahiers des charges. C'est en tout cas la conclusion personnelle à laquelle j'arrive dans mon travail qui est assez artisanal. Hein. Je dis artisanal parce que je ne sais pas comment ça fonctionne au sein des grosses agences web. Moi, je suis plus dans un mode d'équipe de deux ou trois personnes.
Entendu. Et alors, tu avais également parlé de l'aval.
Oui, parce que là aussi, un site web n'est jamais vraiment particulier. En particulier dans sa partie graphique. Une maquette graphique, aussi bien soit-elle, ne couvre pas tous les cas de figure. C'est lorsque le site commence vraiment à se remplir avec de vraies données, parce que souvent les graphistes travaillent avec des faux textes, qu'on voit apparaître plein de détails supplémentaires. C'est aussi le domaine où il est le plus facile d'intervenir, de modifier des détails, parce que quand la structure des données est établie, on n'y revient pas facilement, sauf à tout recoder. Donc ça, quand on vous demande de modifier les données, la structure, vous pouvez dire que vous pouvez vous opposer facilement à trop d'ajustements. Dans ce cas-là, c'est on jette tout le travail. Alors que dans le cas du graphisme, c'est beaucoup plus simple de le modifier. Et du coup, ben, certains ne s'en prisent pas et en amusent. Moi, j'ai eu même le cas d'une personne exigeant un positionnement pratiquement au pixel près, ce qui est assez absurde quand on sait que maintenant, la grande problématique des sites web, c'est de s'afficher sur des tailles d'écran très diverses.
Oui, tout à fait. Et alors, le problème se pose-t-il aussi pour les autres logiciels ?
Oui, alors j'ai surtout parlé des sites web, mais les graphistes sont tout aussi essentiels dans les autres logiciels. Alors, ils interviennent moins en amont, mais leur apport est très important pour la touche finale. Je pense que dans le monde du logiciel libre, nous sommes très bons pour faire le moteur et le châssis, beaucoup moins pour faire la carrosserie. Or, si nous proposerons des Trabants, les voitures d'Allemagne de l'Est avec des moteurs de Rolls-Royce, nous avons du mal à diffuser nos outils et aussi nos messages. C'est pour ça, je pense, que les libristes militants qui ont des compétences en graphisme sont des ressources très précieuses et il faut vraiment les choyer. Voilà, je pense que ça méritait une petite chronique.
Et du coup, moi, j'aurais une question de ton point de vue, parce que je sais que longtemps, on a reproché le graphisme des logiciels libres, qu'ils étaient très reboutoirs pour le grand public. On a quand même l'impression qu'il y a beaucoup de progression là-dessus. Est-ce que tu fais ce constat
Oui, oui. De toute façon, je pense que il y a de... Je pense que les gens ont commencé à intégrer le fait, ne serait-ce que collaborer à logiciel libre, ce n'est pas seulement écrire du code. Donc, on sait bien que c'est à la fois le documenter, c'est à la fois le rendre attrayant. Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup plus de graphistes qui sont militants et qui interviennent dans ce domaine-là. Donc, il y a une nette, bien sûr, une nette amélioration du graphisme en général et de la présentation en général.
Merci. Je te prends un peu à l'emporte-pièce, pas du tout. Qu'importe. Moi, je pense qu'on aura compris l'idée que je véhiculais. En tout cas, merci pour cette chronique et moi, je pense que tu as raison. On voit même qu'au-delà des seuls militants et militants du libriste, hein, c'est bien l'importance de la communication lorsqu'on milite. La contribution des graphistes sont vraiment des choses essentielles. Et puis j'en profite moi aussi pour saluer le précieux travail d'Antoine Bardelli pour l'April. Ben merci Vincent.
Il faut rajouter un dernier adage, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours.
Oh, pas mal. En tout cas, ouais, merci. Puis on va résister à l'envie d'aller prendre l'apéro. Hein, et, voilà. Et on se retrouve le mois prochain.
Tout à fait.
Merci Vincent. Alors nous approchons de la fin de notre émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Alors déjà, rappelons que l'émission et globalement la radio est contributive. Parlez beaucoup de contributions et de communautés, nous y sommes. N'hésitez pas à proposer des sujets, des musiques, des personnes à inviter. Vous pouvez contribuer à l'émission. Vous trouverez sur les sites april.org et causecommune.fm les différents moyens de nous contacter. Vous pouvez également contribuer aux autres actions de l'April et ou de la radio par un don pour les actions bénévoles. Nous rappelons que cette belle aventure qu'est Cause Commune est une radio associative et qu'elle a aussi besoin de nos soutiens financiers. Alors qu'est-ce qui se passe dans le monde du libre? Jeudi 21, le groupe Sensibilisation de l'April se réunit en ligne. Une réunion ouverte à tout le monde, que vous soyez ou pas membre de l'April. En ce moment, le groupe travaille sur le jeu de plateau coopératif et pédagogique, Jeu du Gnou. Dans le cadre de ce jeu, en ce moment, le groupe se penche notamment sur le moyen d'expliquer efficacement au grand public les dangers que posent les restrictions d'usage. Voilà, toutes les informations sur le site de l'April et sur agendadulibre.org. MetaPress, une extension pour Firefox qui permet de faire de la veille automatisée sur la presse en ligne, dont nous avions reçu le développeur dans Libre à vous numéro 52 du 4 février 2020. Eh bien, MetaPress lance un appel de crowd spreading, de diffusion par la foule. En fait, il appelle ainsi à parler et à faire parler et à relayer l'information autour du logiciel sur son existence. Alors, il est bien sûr aussi possible de faire des dons de soutien, et si vous en avez les compétences sur différents sujet, ça peut être notamment le graphisme, pourquoi pas, de contribuer au développement de ce logiciel puisque c'est un logiciel libre après tout. Vous retrouverez tous les autres événements liés au libre sur l'agenda du libre, agendadulibre.org. Alors notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, donc Véronique Bonnet, Frédéric Couchet, Éric Botorel, Vincent Calame, aux manettes de la radio aujourd'hui Patrick Creusot. Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Olivier Humbert, Languin, Sylvain Kotzmann, bénévole à l'April, Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio, causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondre directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions, bienvenue à l'adresse contact@libravou.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, pardon, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et de faire connaître également la radio Cause Commune, La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct, mardi 26 janvier 2021 à 15h30. Notre sujet principal portera sur les outils de messagerie instantanée ou comment se passer de WhatsApp. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve donc en direct mardi 26 janvier et d'ici là, portez-vous bien.